Pour notre tout premier talk, nous avons invité Dottie McLean et Feuilleuse Burlesque. Nous nous sommes retrouvés au Bercail à Reims, un lieu de vie et de travail intimiste, pour un moment haut en émotion. De son enfance tumultueuse mais pleine de souvenirs heureux, Dottie, alias Harmonie Rouennais, nous a partagé comment elle s'est libérée de l'emprise de sa mère et en quoi sa rencontre avec le burlesque a été un élément fort de sa vie, sa renaissance. Elle nous a parlé d'amour, de confiance, d'identité et de nippies. Merci à la maison de champagne Ayala qui nous a rafraîchis avec son sublime rosé majeur. Merci aux délices d'André qui nous a régalés avec ses mets salés et sucrés. Et merci au Bercail pour l'accueil chaleureux. Enfin, merci encore à Dottie pour nous avoir livré les confidences de sa vie. Belle écoute!
Alors, eh bien, bonsoir à toutes. Déjà, je voulais dire que je suis ravie et honorée d'être la première talkeuse du Curiosity Club de Reims. Donc, je voulais déjà commencer par dire merci pour cet Oscar. Pas du tout. Merci Pascaline, merci Charline, merci l'équipe, merci toutes les filles du Curiosity Club. C'est un honneur pour moi parce que je suis du genre pipelette et j'adore parler de moi. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc moi, qu'est-ce que je fais, qui je suis? Je suis donc connue sous le nom de Dottie McLean, qui n'est évidemment pas mon vrai prénom, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis effeuilleuse burlesque, professeure de burlesque aussi également. Mais avant de parler de l'effeuillage burlesque, je vais, comme je vous le disais, raconter ma vie, parce que... Voilà, toujours la même chose. Les artistes, vous savez, nous, on aime bien avoir un peu d'ego, à défaut d'avoir des cachets. Je n'ai pas ce petit syndrome, vous le connaissez peut-être, là, qui est là, à côté de nous, qui s'est assis là, le petit syndrome de l'imposteur, vous voyez. Bon, ce soir, on va lui tordre le cou, vous êtes d'accord? C'est parti. Très bien. Alors, le commencement. Je vais raconter mon histoire. Et le commencement, eh ben, comme toute histoire, c'est la naissance, bien sûr. Donc moi, je suis née dans une petite ville qui s'appelle, tenez-vous bien, La Tronche. C'est pas une blague. C'est une petite ville qui est située en périphérie de Grenoble. Ça va, tout le monde connaît. Mais la particularité de ma naissance, c'est que je suis née dans un foyer de jeunes filles. À l'époque, dans le siècle dernier, donc, on appelait ça un foyer de jeunes filles mères. De filles mères, voilà, des filles mères. Ma mère m'a eu à 18 ans, donc très très jeune, suite à un parcours de vie qui était au départ très bien parti, puisqu'elle était fille d'un kiné, avec un cabinet, une grande maison à Voreppe dans la banlieue, enfin voilà, tout ce qui va bien, etc. Le choc a été la mort de sa mère, ma grand-mère, qui est décédée donc il y a longtemps, donc quand elle avait 16 ans. Et là, c'est le point de départ de tout ce qui a fait ma vie, en fait, alors que je n'étais pas née. Vous voyez, ce point de départ-là a fait que je suis née d'une femme prostituée et d'un client. Donc j'ai grandi avec cette idée d'être une enfant non désirée, un accident de parcours, un accident de vie d'une jeune fille qui faisait ce qu'elle pouvait pour survivre, hein, et qui a fait tout ce qu'elle a pu pour survivre. Et donc moi, je suis arrivée dans ce contexte-là, dans ce foyer-là, entourée d'autres jeunes filles, parfois très jeunes, qui avaient d'autres enfants. Et pour s'en sortir, à l'époque, je vous parle de ça, en 1980, comme ça, ça vous donne une idée de mon âge, calculé. Et à cette époque-là, les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de choix pour s'en sortir seule, avec un enfant célibataire. Vous voyez, on était encore un peu dans cette idée qu'il fallait être marié à tout prix, être mère au foyer, etc. Ce qui fait que, elle a trouvé un mari. Voilà, donc il a fallu trouver un mari. De cette union est né mon petit frère. Et donc, nous voilà partis tous les quatre à vivre dans un HLM, 11e étage de l'avenue Paul Cocard. Bien, vous voyez, le début était un peu chaotique. Ça a été un parcours assez chaotique pendant des années et des années. Je suis née donc de cette femme qui, pour s'en sortir, a été capable de faire tout et n'importe quoi. Et me voilà, moi, petite fille des années 80, perdu, séparé de son frère, séparé de sa mère, enfin plutôt enchaîné à sa mère. J'étais un petit peu son boulet, vous voyez, le petit boulet non voulu, mais qui est là quand même et qui était à la fois là pour l'élever elle et pour la freiner. Bon, c'était un petit peu compliqué, vous imaginez bien. Mais j'ai quand même beaucoup de souvenirs heureux d'enfance puisque quelques années après, elle a eu le bonheur de tomber sur un homme, le premier homme qui a été l'équivalent le plus proche du père que moi j'ai connu. Donc j'ai énormément de souvenirs heureux et souvenirs heureux de mon enfance avec cet homme-là qui a joué le rôle de père, qui m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à nager, à sauter du plongeoir de 10 mètres. Enfin voilà, des petites choses, des petits souvenirs très heureux avec lui. C'était difficile parce qu'on a beaucoup déménagé, tous les deux ans on déménageait, donc nous voilà à partir de La Tronche à Grenoble. Bon, ça va, c'est pas très loin. De Grenoble, bah tiens, si on allait à Besançon, allons à Besançon, et de Besançon à Strasbourg, ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah on va à Reims, voilà. Donc moi quand je suis arrivée à Reims, j'avais 10 ans, et déjà j'étais une petite fille très timide. Oui, oui, pour de vrai, hein. Vraiment timide, vraiment très timide, renfermée sur moi-même. Je ne parlais à personne, je n'arrivais pas à aller à la boulangerie pour acheter un paquet de bonbons. Enfin, vous voyez le topo, hein. J'étais dans une espèce de nuage constant. Et je n'avais pas ce côté éloquent, j'ai envie de dire. Éloquent, extravagant, etc. Que j'arrivais pas à développer ça parce que j'étais vraiment considérée comme une enfant... voilà, les enfants hypersensibles et hyper timides, hein, de toute façon, voilà. Donc je ne savais même pas aligner deux mots. Quand on me demandait, petite parenthèse, quand on me demandait si je voulais un dessert aux fruits ou yaourt, je ne savais pas quoi répondre et je m'enfermais comme une coquille, voilà. Ça a bien changé, heureusement pour moi. Très bien, donc voilà, cette petite enfance toute pas très intéressante, il ne s'est rien passé d'intéressant. J'ai vécu avec ma mère un peu compliquée, un peu difficile, un peu cassée, qui était bien cassée, bien cassée, et qui a dû, au fil du temps, trouver des tonnes de stratagèmes pour que nous deux, elle et moi, on s'en sorte. J'avais quand même mon beau-père qui était là, mais qui était toujours un peu à part, parce que j'étais la propriété de cette femme, donc j'étais sa bouée de sauvetage. Donc tout se passe bien jusque-là, hein, à peu près, on va dire ça comme ça. Et me voilà arrivée à Reims, donc adolescente. Voilà, être adolescente dans les années 90, c'était plutôt difficile, parce que quand on ne ressemble pas aux filles qui sont dans Star Club, celles qui savent de quoi je parle, avec les petites fiches musique à la fin, voilà. Voilà, on n'était pas Madonna, quoi, hein, clairement. Donc du coup, c'était très compliqué. Et ça, je pense qu'on l'a toutes vécu parce que, voilà, finalement, on n'était pas dans un moule. J'ai eu une enfance très compliquée. J'avais pas de lien avec mon frère. On a été séparés. On était très, très jeunes. Hein, on avait 5 ans et 3 ans. Et en plus de ça, il a fallu gérer l'alcoolisme des parents et l'alcoolisme de ma mère. Quand j'avais 5 ans, je jetais les bouteilles d'alcool par la fenêtre, sans savoir que c'était dangereux, bien sûr. Voilà, en essayant de sauver, vider les bouteilles dès qu'elle avait le dos tourné. Et c'était la difficulté de cette enfance qui nous a menés à déménager et à se séparer et à être voilà, l'espèce de bouée de sauvetage de ma mère. Donc c'est quelque chose de compliqué à vivre quand on est enfant, de se retrouver l'adulte de la famille. Et malgré tout, l'arrivée de personnes autour de nous m'ont permis, en tout cas moi personnellement, de m'élever et d'avoir une enfance et une adolescence, surtout une adolescence à peu près normale. Vous voyez, j'insiste, à peu près normale. Et effectivement, la séparation, ça a été de ma mère et de mon beau-père, qui a été pour moi le seul père que j'ai eu, a été très compliqué. Ça a été très très compliqué. En fait, mon beau-père est resté pendant des années pour moi. Et il a toujours voulu quitter ma mère parce qu'il ne supportait plus et l'alcoolisme et tout ce qui va avec, les mensonges, les crises, la dépression, enfin voilà, tout ce qui va avec l'alcoolisme. Mais malgré tout, il a tenu pendant des années entières à rester pour moi. pour pas me laisser seule avec elle, pour que je puisse, moi, avoir un semblant de stabilité et avoir à m'élever un petit peu. Donc, c'est lui qui m'a inscrit au cours de théâtre, vous voyez? C'est lui qui m'a inscrit là-dedans. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on avait nos petites habitudes, on a la piscine, le vélo, enfin, des tas de choses qui fait que j'avais un semblant de stabilité à côté de ça. Et quand moi, je suis partie de la maison, je suis partie très, très jeune, à 18 ans, eh ben, c'est là qu'il est parti de lui aussi de la maison. Et il a pu du coup vivre sa vie et moi la mienne. Donc c'est quand même la seule figure paternelle que j'ai eue. Et heureusement parce que je n'avais pas de modèle féminin de mère déjà. J'avais un modèle qui était erroné finalement, qui était différent des autres de mes copines et de mes copains que j'avais, qui était complètement différent et qui était honteux. Pour moi, c'était honteux d'avoir cette mère qui me soufflait le chaud et le froid constamment depuis ma naissance en me disant qu'elle m'aimait mais qu'elle ne me supportait pas et que heureusement que je suis là pour la sauver mais que c'est moi qui l'a fait couler. Voilà. Ça, c'était très difficile à dire et cette stabilité-là, avec cette peu de stabilité-là que j'avais avec lui, ça m'a permis moi de pouvoir grandir à peu près normalement et de me dire bon. Voilà, j'ai pas les mêmes armes que tout le monde. Je suis partie déjà mal partie. Mon début était chaotique, mais finalement, je vais peut-être arriver à m'en sortir un petit peu. Donc, j'ai pas forcément fait d'études. J'ai fait des choix complètement idiots. Et quand j'y réfléchis, je me dis finalement pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas de repères, parce que je savais pas où aller, je connaissais pas le chemin. J'avais un labyrinthe devant moi, en fait, et j'ai grandi, voilà, je suis devenue une adolescente, une femme, dans un labyrinthe. Donc, il a fallu que je cherche des passages secrets dans ce labyrinthe pour pouvoir trouver mon propre chemin et creuser moi-même mon chemin. Adolescente, du coup, j'ai rencontré mon premier amour, qui était un jeune homme très bien sous tout rapport, qui a lui aussi vécu une enfance particulière, qui a été élevé, lui, par son père, avec son petit frère, voilà, mais qui était... le contraire de moi, n'avait pas de figure maternelle et une figure paternelle très compliquée. Voilà, c'était un peu le même genre, version masculin, bref. Et donc on s'est rencontrés, on a vécu une histoire d'amour incroyable pendant des années où on a vécu notre vie vraiment, on s'est vraiment lâché. On avait une passion en commune qu'on a toujours d'ailleurs, cette petite passion en commune qui était, rien à voir avec le théâtre ou le burlesque, qui était la deux chevaux. Voilà. Donc la deux chevaux, vous savez, la petite voiture Citroën, la petite voiture de collection, il m'a draguée en me disant « je roule en cabriolet ». Je lui ai dit « bah ouais, moi aussi ». Et il s'est avéré qu'on avait tous les deux une deux chevaux. Bon. Et on partait beaucoup tous les week-ends découvrir l'Europe avec cette deux chevaux en fait. Ça nous a beaucoup aidés parce que déjà on s'éloignait chacun de notre cercle familial. Hein, donc ça nous faisait nos vacances, si vous voulez, notre souffle de partir à droite, à gauche. C'était notre bulle à nous et on a découvert en fait, ça a été l'école de notre vie. C'est beau ce que je dis, non? Ça nous a permis d'avoir une bulle. Après, on a décidé finalement, il fallait qu'on crée notre propre famille à nous et nous voilà partis à vouloir faire des enfants. Et ben, mon fils est né donc de cette union. On était très très jeunes, j'ai eu mon fils, j'avais 21 ans. Notre but dans notre vie à chacun, c'était d'avoir 3 enfants avant d'avoir 25 ans. Voilà, on était étudiants, on était jeunes, etc. Moi, j'ai travaillé par-ci, par-là, j'ai pas fait d'études. Il a fait des petites études. Enfin, on a fait des études qui servent... Enfin, moi, en fait, moi, j'ai un diplôme qui n'existe plus. Donc, autant dire que j'ai pas fait d'études. En plus, j'étais enceinte comme ça, donc j'y suis pas allée. Donc, en fait, j'ai même pas eu mon DUG. Et mon fils est arrivé et ça a été un chamboulement énorme, hein, pour plusieurs raisons. Parce que bah, j'avais 21 ans, que j'étais jeune, que... On a été très mal considérés parce qu'on était très jeunes justement, donc on s'est beaucoup pris des réflexions des gens dans la rue, dans les personnels médicaux, etc. Enfin, c'était très compliqué. J'ai vécu un énorme traumatisme qui m'a fait non seulement psychologique et physique, hein, ça a été très compliqué, et psychologiquement ça a été très très difficile pour moi. Je ne m'attendais pas à ce chamboulement dans ma vie à ce point-là. Moi, je m'étais dit, je vais avoir un enfant, c'est super, on va s'éclater, on va partir en deux, on va faire plein de trucs. Bon, pas du tout. Et c'est un traumatisme qui m'a suivi pendant de longues années. Et ça a été tel qu'avec mon premier amour, on a décidé, enfin, il a décidé de que c'était plus sympa avec la nounou. Ouais, un roman, je veux dire un roman. Bon bref, c'est la vie, on était jeunes, etc. C'est pas un problème. Vous savez, maintenant, mon fils, c'est son anniversaire mardi prochain, il va avoir 22 ans, voilà. Ce chamboulement, il est important parce que ce traumatisme que j'ai vécu, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, on est ensemble, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, quand il a été question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des enfants, ça a été compliqué pour moi de dire oui. Moi, c'était plutôt non. Non, ça va, je n'ai pas besoin, je me sens bien là, j'ai pas envie et j'ai surtout très peur de ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais subir les mêmes traumatismes physiques que j'ai eu pour cette première grossesse et ce premier accouchement qui était très très compliqué? J'ai quand même gardé des grosses séquelles, hein, parce que bon, là, on a dû me... Je ne vais pas vous faire l'histoire parce qu'il faudrait encore 3-4 heures. J'ai perdu une trompe dans la bataille, j'ai dû être opérée d'urgence, j'ai passé 15 jours à l'hôpital loin de mon fils, ça a été compliqué. Et après, le traumatisme de cet enfant que j'arrivais pas vraiment à prendre dans mes bras parce que j'étais physiquement mal, je me suis dit, je ne veux pas revivre ça. J'avais l'impression d'avoir perdu, enfin, de ne pas avoir l'instinct maternel, vous voyez. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est physiquement, je n'y arrivais pas. Donc, ça a eu un impact énorme psychologique sur moi. Et donc, cette question de, est-ce que moi, j'aimerais bien avoir un enfant? Moi aussi, mais là, je ne le sens pas. Finalement, j'ai fait une thérapie. Une première thérapie qui a duré quelques temps et qui m'a aidée à me dire, eh ben oui, allez, oui, je suis une fille trop sympa, faut que je partage ça avec des enfants. Et ma fille est née, et là je me suis dit, par contre, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour pas retomber dans cette dépression postpartum, dans cette dépression, dans ce traumatisme revienne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, mon conjoint me dit, bah, reprends le théâtre, tu vois. Ah bah, je dis, oui, c'est une idée. Malgré tout ce qui s'est passé avec ma mère, malgré toute l'enfance, l'adolescence que j'ai vécue avec elle, elle était toujours là, présente autour de moi, toujours là avec moi. Elle s'était incrustée dans ma vie, incrustée dans ma passion, parce qu'elle s'était mise à faire de la deux chevaux et à faire tous les rencontres de deux chevaux. Elle s'est devenue amie avec tous mes amis. Enfin, bon, voilà. Une espèce de omniprésence de ma mère qui était là et qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Et c'est vrai que mon conjoint me disait, mais quand même quelque chose, enfin, c'est bizarre, elle est tout le temps là, t'es tout le temps d'accord avec elle, elle dirige un peu notre vie, quoi. Alors, moi, pas du tout, mais voyons, pas du tout, elle ne dirige pas du tout ma vie, je fais ce que je veux, je suis une adulte, etc. Bon, non, en fait, pas du tout. Il a ressenti quelque chose que moi, je n'avais pas ressenti par rapport à ma mère, en me disant, il y a quand même des choses bizarres. Mais elle vient chez nous. Oui, elle a la clé, elle vient chez nous. Elle arrose les plantes, elle nourrit le chat, enfin, elle vient à la maison. Oui, mais quand on n'est pas là, il y a des choses qui disparaissent et il y a des choses qui bougent. Tu ouvres l'armoire, il y a des choses qui bougent, qui n'étaient pas là et qui sont là. Il y a des... Voilà. Gérard Majac, je ne sais pas. Et effectivement, lui, sa première idée, c'était, c'est ta mère. Bon. C'est vrai qu'il y avait une relation toujours compliquée entre eux. Pour le dire, non, ils ne s'aimaient pas du tout. Et la raison pour laquelle il ne s'aimait pas, c'est que lui, il avait beaucoup de méfiance envers elle. Et elle voyait bien qu'il avait de la méfiance, et surtout qu'elle n'arrivait pas à ce qu'il aille dans son sens à elle. Et moi, je me suis mis à douter en me disant, mais peut-être, en réfléchissant, je me disais, il y a quelque chose. Et puis, donc, c'est là que tout est imbriqué, parce que tout est arrivé au même moment. C'est là donc que j'ai découvert moi ce qu'était le burlesque. À cette époque-là, j'écrivais un blog. J'avais besoin d'un échappatoire pour sortir tout ce que je ressentais. Alors c'était très mal écrit. Il y avait une syntaxe approximative, des fautes. Je vous en parle pas. Enfin bon, c'était bon. Je me suis améliorée avec le temps, heureusement. Et j'ai tenu ce blog pendant 12 ans, je crois. Ça s'appelait Maman au bord de la crise de nerfs. Et tout se passait en même temps, c'est-à-dire que moi j'écrivais en disant, et les gens à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il y avait Facebook commençait à peine à sortir, sauf que, donc les gens nous répondaient sur les blogs, sur les commentaires, et on se parlait sur commentaires interposés des blogs, vous voyez. Et donc, je racontais ça en disant « Oui, mon conjoint, il a des toutes, il se passe un truc avec ma mère. » Mon journal intime, mais sur Internet. Hein, tout le monde pouvait le lire, c'était super. Tout le monde pouvait le lire, et ça, c'est important pour la suite. Tout le monde pouvait le lire, et j'écrivais tout ce que je ressentais, aussi bien ce qui se passait avec ma fille, avec mon conjoint, en tant que ma mère, il y avait des trucs bizarres, etc. Je sais pas trop, machin. À ce moment-là, je découvre le burlesque. Ça, c'est la même année, hein. C'est la même année, hein. Tout pareil. Hein. En un an, j'ai tout fait. J'ai tout fait en un an. Je me suis dit comme ça, après, je suis tranquille toute la vie. C'est faux, ne faites jamais ça, c'est une erreur. On n'est jamais tranquille toute la vie. Et donc, je découvre le burlesque. C'est une amie qui m'appelle et qui me dit, mets Arte tout de suite. Regarde, il y a un spectacle de burlesque, ça va te plaire, toi qui fais du théâtre, de la comédie, etc. Et je découvre le burlesque et je me dis, bah, lave-la ma soupape. Ce sera mieux que le blog, c'est ma soupape, plus, plus. Autant j'écrivais beaucoup, ça me faisait du bien à l'esprit et j'avais besoin de me faire du bien au corps. Donc le bien à l'esprit, ça va, maîtrise. Le bien au corps est arrivé avec le burlesque. Alors, je vais juste vous dire une petite parenthèse pour vous dire ce qu'est le burlesque. Le burlesque, c'est la grand-mère du striptease. C'est pas ta grand-mère fait du striptease. Voilà. Le burlesque est un art, en fait, c'est un art donc de striptease, qui est un art très ancien, qui est français, qui est né à l'époque des cabarets qu'on connaît tous, hein, le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, enfin voilà, toute cette période-là, début 1900, le Chat Noir, il y avait les Folies, enfin, tous ces cabarets-là sont arrivés, et les femmes ont commencé à se dénuder. C'est exactement le même cheminement que le French Cancan, c'est-à-dire que les femmes, pour protester, ont commencé à se dénuder, et à enlever des couches et des couches et des couches et des couches, parce qu'à l'époque, les femmes, elles étaient habillées de beaucoup, beaucoup de couches sur elles. Et donc, ces femmes-là ont commencé à enlever leurs vêtements petit à petit pour protester, justement, et pour se sentir libres. Et ça se faisait dans les cabarets, et c'était de la moquerie sur la haute bourgeoisie, sur, voilà, c'était déjà un combat contre la société patriarcale. Tout comme les danseuses de French Cancan d'ailleurs, qui faisaient pareil en soulevant leurs jupes et en levant les jambes en l'air et en montrant leurs fesses. La grosse différence entre le burlesque et le striptease, c'est le message. Parce que le striptease, moi j'appelle ça striptease de boîte de nuit, c'est un message sexuel. Alors que les feuillages burlesques, on est plus sur un message déjà sensuel, c'est pas du tout un message sexuel et c'est un message de contestation aussi, mais pas que. C'est un art à part entière qui allie la danse, la comédie, le cabaret. On peut avoir du burlesque aussi mélangé avec de la pole dance, de la chair dance. C'est quand on danse sur les chaises, voilà. Bref, cet art-là, ça m'a permis, moi, de me libérer le corps. Je me suis lancée là-dedans en me disant, tiens, si je faisais ça pour m'amuser, vous voyez. Et à l'époque, à Reims, il n'y en avait pas, en fait. Il n'y en avait pas. Donc, il fallait aller à Paris pour prendre des cours, pour apprendre le burlesque. Donc, me voilà partie à aller à Paris tous les week-ends, aller voir des spectacles, aller faire des cours, à me rendre compte que je prends des cours avec des légendes américaines du burlesque. Je ne savais pas que c'était des légendes américaines du burlesque. Bon, je découvre ça et je me dis, c'est ça que je veux. Ça a été une année charnière dans ma vie, l'année de mes 30 ans. Je me lance dans le burlesque. Je me lance dans le burlesque et je me sens bien et je me sens rayonnée et j'écris et tout va bien dans ma vie. Voilà, j'ai une fille qui a 80 ans qui est super difficile. Voilà. Et je suis dans, vraiment, je me retrouve dans cette vie choisie et aimée. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment bien. Je me dis, bon, bah, c'est cool, j'ai 30 ans et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Faut savoir qu'à l'époque, j'ai pris une décision assez difficile, que d'avoir l'écriture et le burlesque m'a permis de me rendre compte de beaucoup, beaucoup de choses, de ce que je vivais et de surtout, quelle était la vraie nature de la relation avec ma mère. En me libérant le corps et l'esprit avec ces activités-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai passé ma vie sous son emprise. Et quand je dis le mot emprise, c'est pas un mot anodin, c'est pas un mot lancé comme ça. C'est-à-dire que toutes les décisions de ma vie, c'est elle qui les a prises, et moi, je pensais que c'était moi. Vous voyez ? Elle a géré toute ma vie, depuis toujours, et même quand je suis partie de la maison, que je suis devenue adulte, que j'ai eu mes enfants, que j'ai vécu ma vie, eh ben non, j'avais toujours cette épée au-dessus de moi qui décidait pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment à l'année de mes 30 ans, grâce au burlesque, à l'écriture, à tout ça, et d'être bien dans ma vie, et d'avoir cet esprit et ce corps libéré. Les deux vont ensemble, hein, l'esprit était libéré, et une fois que le corps a été libéré, bon, là, c'était la fête, hein. Voilà, c'était super. Hein. Et donc, je me suis rendu compte là qu'effectivement, il y avait quelque chose qui clochait avec ma mère. Et c'est là que j'ai eu. Il y a tout un nombre des choses qui sont arrivées, qui ont fait que ça m'a confortée dans mon idée qu'il fallait que je prenne une décision radicale pour ne plus avoir cette emprise sur moi. À l'époque, elle était directrice d'une agence d'intérim. Elle était sur Sens. La chose étrange, c'est que ma mère, elle déménageait tous les 2 ans. Tous les 2 ans, au gré de « tiens, je change de boulot, je vais faire ça ». Et elle passait de vendeuse de téléphone à directrice d'une agence d'intérim. Bon, pourquoi pas, très bien. Voilà, elle sautait d'un boulot à un autre et toujours plus, dans des postes assez importants finalement. Un jour, je pars en fait. Si vous voulez, j'ai vécu quelques temps par là-bas, par le chêne, et je pars, je reviens à Reims avec mon conjoint, on revient à Reims. Et donc elle pète un petit peu un plomb en disant « non, mais vous allez être loin, moi je veux revenir vivre à Reims avec vous ». Et là elle me dit « oui, je viens à Reims, je me fais muter, la boîte d'intérim elle me mute à Reims, il n'y a pas de problème, je prends une agence à Reims et puis comme ça je reviens, je suis à Reims près de vous ». Et là, moi qui étais en pleine transition, en plein changement, je me dis « effectivement c'est bizarre ». Elle veut nous suivre, elle ne veut pas vraiment nous laisser vivre notre vie, vous voyez. Bon, évidemment, mon conjoint qui était en mode « je te le dis, mais bon, tu m'écoutes pas trop ». Ben non, voilà, je la défendais corps et âme, hein, tout le temps. Il pouvait me dire n'importe quoi sur ma mère, ça partait au quart de tour. « Non, tu dis c'est des conneries, c'est parce que tu l'aimes pas, etc. » Voilà. Il savait avant tout le monde, en fait. Elle dort chez une amie qu'elle connaît depuis que je connais depuis que j'ai 15 ans, qui est comme un peu sa deuxième fille, vous voyez. Donc c'était ma meilleure amie d'époque, etc. D'enfance, c'était mon amie d'enfance, enfin d'adolescence. Et elle dort chez elle. Et il se passe quelque chose. Elle visite des appartes, très bien. Visite des appartes. Elle choisit un appartement, très 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 bien, très très bien. Assez loin de chez moi, donc ça va. Parce que moi j'étais à la campagne et elle était en ville. Et là se passe quelque chose d'invraisemblable. Mon ami m'appelle quelques jours plus tard et me dit « Écoute, il y a un problème avec ta mère. » Alors, moi je me dis « Il y en a encore un, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu vas pas t'y mettre non plus. » Et là, elle me raconte ce qu'elle lui a fait. La petite histoire, c'est que ma chère mère, garder cet appartement qu'elle avait choisi, elle a décidé de voler mon ami, en fait, de lui piquer quelques chèques, tu vois, pour faire pour payer la caution. Le propriétaire, il a été malin, il a téléphoné, il a cherché l'annuaire, il a téléphoné à mon amie, elle lui avait sorti un baratin en disant « oui, elle me le prête, etc. » Enfin, voilà, on s'arrange entre nous, elle me fait un chèque, je lui donne un... Ouais, bref. Et en fait, il s'est avéré que c'était faux, que c'était vraiment du vol. Et donc, elle décide à ce moment-là de faire quelque chose. Mon amie, de me dire « il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, moi, je vais aller voir la police. » Et donc, moi, je vais la voir, ma mère, je vais la voir et je lui dis « qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, les grandes eaux et la dépression et je suis malade, je suis pas bien, machin. Je suis en arrêt depuis des mois et des mois et des mois. En fait, je te l'ai pas dit. Je fais une dépression, j'ai fait un burn-out. Alors, je tombe des nues et je me dis « c'est pas possible. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu t'aider. Je suis là, tu vois, je viens, je fais des kilomètres, c'est pas un problème, je viens. » Et je voulais pas te déranger, gna gna gna, la victime, enfin bref. Je lui dis très très bien, et ben on va faire quelque chose, on va t'aider et tu vas te faire soigner et puis comme ça ira mieux. Ça peut arriver, c'est des parcours, voilà, t'as une vie pas facile, t'as quand même vécu des choses dures, t'as jamais fait de thérapie, alors malgré tout ce que t'as vécu quand t'étais enfant et adolescente, donc voilà. Et là, voilà, partie à faire une thérapie, à être en arrêt maladie, à revenir, etc. Et un jour, je reçois un email de 2 personnes. Que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont retrouvée comme ça par hasard et qui me disent « Écoute, on voudrait avoir des nouvelles de ton fils, savoir comment il va. » Bah, il va très bien, cet enfant, il est heureux de vivre, voilà, il va avoir 10 ans. Qu'est-ce qu'il a ? » Et elles me disent « Bah, écoute, ta mère, elle est en arrêt, on est ses collègues, en fait. Et comme elle en arrête plus longtemps, elle nous a dit que ton fils était hospitalisé et qu'il allait bientôt mourir, quoi, en gros. Voilà. Donc, elle a justifié son arrêt maladie en disant que son petit-fils était hospitalisé, une maladie très grave, incurable, etc. et qu'elle voulait passer ses derniers mois avec lui. Et donc, ça a été un choc, déjà. Pour plusieurs raisons. Le premier choc, ça a été... Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je sais qu'elle a tendance à arranger les choses, à dire des choses pour avoir, voilà, faire des choses pas très bien, dire des mensonges pour embellir sa vie, je veux bien. Mais là, c'est quand même très fort. Et je décide à ce moment-là je prends une décision qui va changer ma vie. Je décide de l'aider. Et elle me dit, j'ai pas besoin de ton aide. Et donc, je prends la décision de couper les ponts avec elle. Voilà, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça a été très difficile. J'en ai pleuré pendant au moins à peu près 3 semaines et demie, non-stop. Parce que je lui ai dit, je vais t'aider. Mais la seule manière que j'ai trouvée pour t'aider, c'est de te laisser, en fait, te débrouiller. Et moi, de vivre ma vie. Et puis, ben, fais-toi soigner. Et une fois que tu seras fait soigner... Eh ben, je serai là, voilà. Je serai là pour t'aider quand tu auras besoin, etc. Mais pour l'instant, laisse-moi un petit peu tranquille. Donc, je coupe les ponts avec ma mère. Et là, ma vie, elle a basculé dans quelque chose d'incroyable parce que non seulement je me sentais libérée, j'avais l'impression d'avoir, vous voyez Atlas, là. Bon, ben, mon monde à moi, c'est bon, il avait rebondi ailleurs. Je le tenais plus sur mes épaules. Et j'avais un poids qui s'était tout à coup évacué, qui était parti. J'avais un boulet qui était reparti. Et je me sentais très très bien. C'était difficile parce qu'évidemment, c'est quand même pas anodin de couper les ponts avec sa mère. J'ai vécu quand même sous son emprise pendant 30 ans. Et de là de me dire, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'aider elle et pour m'aider moi. Ça a été une libération, donc comme je disais, une libération vraiment, et d'où je me suis sentie épanouie. Et en plus, ça m'a libérée dans ma manière de faire du burlesque, dans ma manière de me lancer à corps perdu dedans, en fait, parce que c'était ma thérapie. Le burlesque, ça a été ma thérapie à ce moment-là. Et voilà, j'étais bien et je commençais vraiment à faire du burlesque, à être connue un petit peu, à faire des scènes un peu partout ailleurs. J'ai monté une troupe, j'ai monté une école, enfin j'ai monté plein de choses, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai monté un festival, enfin voilà, je me retrouve là à faire ce burlesque et à me sentir libérée d'un poids. Enfin, je vivais vraiment ma vie et j'étais bien. Et là, un jour, je reçois un coup de fil génial, hein. Je vous le conseille pas du tout, c'était horrible. On m'appelle, bonjour. On m'appelle pour me dire, vous êtes convoquée, madame, à la gendarmerie de Sens. Et la première chose que je lui dis, c'est ma mère. Et elle me dit oui, je lui dis, elle est morte. Il me dit non, pas du tout, mais venez. Et donc, je vais à Sens. Il me dit préparez-vous. Je suis restée 6 ou 7 heures à Sens à me faire interroger. Enfin, c'était pas un interrogatoire, c'était plutôt une déposition. Où j'apprends que ma mère était en fait un escroc notoire depuis 30 ans. C'est-à-dire que ça faisait 30 ans qu'elle escroquait tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle déménageait tous les 2 ans, parce que elle a escroqué des huissiers de justice, elle a ouvert 4 comptes à la banque avec des photocopies, enfin, c'était rococo, vous voyez? Bon, la même. Ça fait 30 ans qu'elle escroquait les gens, et que le fait d'avoir volé ce chèque à mon ami qui a porté plainte, c'est ça qui a déclenché l'enquête. Et la gendarmette, elle a passé 3 ans et demi sur cette enquête, rien que dans Lyon. Elle y a vécu 2 ans, hein, dans Lyon. Et dans Lyon, elle avait 25 délits différents, 4 comptes différents. C'est là qu'il y avait l'huissier de justice. Elle avait aussi la chose la plus grave qu'elle ait fait, c'est que tout ça, tout ce qu'elle a fait, c'était toujours en mon nom. C'est-à-dire qu'elle a usurpé mon identité. De ma naissance à mes 30 ans, quoi, voilà, jusqu'à ce que le poteau rose soit découvert. Ça a été un choc parce que déjà je me rends compte que non seulement elle m'a tenue sous son emprise toutes ces années, maintenant j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'elle s'est servie de mon identité pour escroquer des tas de gens. Alors, vite fait, il y a quand même 400 000 euros de dette à mon nom. Voilà, que quatre comptes différents dans quatre banques différentes qui eux aussi se sont fait escroquer. Des propriétaires de logements qui apparemment, je leur dois de l'argent parce que j'ai été garant toute ma vie de ma mère, sans le savoir. Mais comme elle n'a jamais payé le loyer, bon, voilà, c'était à moi de payer. Et elle avait cinq identités différentes à partir de la mienne. C'est-à-dire qu'elle changeait une lettre, une date de naissance, un prénom, enfin voilà, elle s'est réécrit une vie avec ma vie à moi. Guillaume, mon conjoint, il avait tiqué parce que, une sombre histoire, une fois on avait voulu acheter je sais pas, un ordinateur. Il dit, oh bah tiens, on va le payer en plusieurs fois parce que bon, on est pauvre, hein, tu es artiste, tu es pauvre. Et on m'a refusé le truc, on m'a dit, non, non, vous êtes en rouge clignotant, vous. Ah bon? Bon, bah, du coup, on l'a acheté cash, bon, tant pis. Et on s'en est pas occupé. Et là, tout revient en me disant, mais attends, mais si, mais ça, c'est ça. Et puis les trucs qui disparaissaient. Mais tu te rappelles tout ce qui disparaissait dans la maison? Ouais, c'est ça. Et tu te rappelles la fois où on était chez un copain et sa carte bleue a disparu? Bah ouais, et bah en fait, on s'est rendu compte que tout ça, c'était elle qui, depuis 30 ans, s'était amusée. Enfin, amusée. Elle a escroqué énormément de monde. Elle faisait des fausses fiches de paye. Des fois, alors elle gagnait très bien sa vie sur le papier. Des fausses fiches de paye, quand tous les propriétaires ils ont sorti le dossier de fiches de paye, elles se rendaient compte que c'était que du faux. Que du faux, tout était faux. Elle s'est inventé une vie. Et là, la petite gendarmette, elle me dit, bon, moi, ça fait 3 ans et demi que je tourne dessus, et le procureur, il m'a dit, le juge, il m'a dit, arrêtez, parce que je commençais à en trouver à Nancy, et puis à Lunéville, et puis à Auxerre, et puis en fait, tous les endroits où elle a vécu. Elle m'a cité toutes les villes où ma mère a vécu, où elle avait, toutes ces années, avec mon identité, escroqué la terre entière, finalement. Et elle me dit, on a failli perquisitionner chez vous. Puis en fait, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas venue chez moi? C'est votre blog, madame. Ah bon? C'est-à-dire qu'on a lu votre blog, hein, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que vous avez un blog et je l'ai lu et j'ai vu tous les posts où vous disiez, où vous racontiez quand vous avez coupé les ponts avec votre mère, que si, que ça, machin. D'accord, merci madame. Merci beaucoup. L'écriture, ça m'a sauvé la vie. Par rapport à ça, ça m'a sauvé la vie de plein de manières différentes et le burlesque m'a aidé à me sauver la vie parce que je me suis lancée dedans et c'est ce qui m'a élevée en fait. Moi, j'ai été élevée par le burlesque. Finalement, c'est le burlesque qui m'a élevée en fait. Voilà. On pourrait...
Bon, merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est intense.
De t'être livrée à
Ça
nous
s'est
ce
passé
soir.
Vite.
Oui, c'est passé vite, moi aussi j'ai trouvé.
J'ai l'impression que.
Vous avez trouvé. Je pense qu'on peut dire que tu as une certaine force de résilience qui est incroyable et
il faut,
ce
il
qu'on
faut.
Admire particulièrement chez toi.
Merci.
On va laisser un temps aux questions, si vous en avez peut-être. Oui.
Moi j'ai une question, Harmonie, Betty McLean, c'est justement le fait que votre mère vous ait dû retrouver votre identité.
Non, pas du tout. Le nom de scène, c'est vraiment pour faire la dichotomie entre la vraie vie et la vie d'artiste, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai que ça contribue à renouveler ma vie, en fait. Enfin, à vraiment la prendre en main. Parce que c'est ce personnage de Dottie McLean, c'est elle, en fait, qui m'a permis de vivre la vie que j'avais vraiment envie de vivre et celle que je voulais vivre. Et ça m'a permis, voilà, de m'enlever, de ne plus être cette petite fille, cette Harmonie, parce que c'est mon vrai prénom.
Harmonie.
Oui. Oui, c'est, voilà, il fallait vraiment une différence entre les deux et ça me permet de sortir de la vie d'Harmonie qui était vraiment compliquée et difficile avec tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai subi avec ma mère et finalement d'avoir, ben voilà. Et maintenant, il y a quelque chose de difficile quand on est artiste, c'est qu'il faut pas que notre nom de scène, il ne faut pas que notre personnage scénique prenne le pas sur notre vie. Vous voyez, à un moment, ça m'est arrivé forcément avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça a pris le pas sur mon vrai moi. Mais maintenant, grâce à Burlesque, hein, toujours, c'est toujours pareil. Hein, moi, c'est l'écriture et Burlesque, hein, qui m'ont sorti de là. Grâce à tout ça, ça m'a permis de faire la différence et de me dire, bon, bah, Harmonie, elle a vécu cette vie-là. Doty, elle a cette vie-là, et Doty, elle a permis à l'ancienne harmonie d'être une nouvelle harmonie vachement plus sereine et vachement plus cool et qui vit sa meilleure vie, quoi. Voilà. Oui, 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 elle vit en Belgique. Elle s'est mariée avec un Belge il y a des années de ça. Elle est partie. En fait, ils sont allés perquisitionner chez elle. Elle habitait dans la rue en face de la gendarmerie. Et elle était déjà. Oui. Et en fait, elle était déjà partie. Elle avait tout laissé en plan et elle était partie. Elle était partie vivre en Belgique. Et elle s'est mariée et elle vit sa vie en Belgique. Tout va bien pour elle. Faut juste pas qu'elle se fasse arrêter en France, quoi. C'est-à-dire que quand elle vient en France, si elle se fait arrêter pour n'importe quoi, un contrôle de papier, hop, elle va en prison. Ouais.
Mais je crois que tu m'avais dit, il me semble, que tu n'es plus en contact avec elle.
Ah non, de toute façon, j'avais déjà coupé les ponts avec elle il y a une quinzaine d'années avec cette histoire. Quand elle, voilà, j'avais besoin de couper les ponts avec elle. Et ça n'a fait que renforcer. Parce qu'au départ, j'ai coupé les ponts en disant, voilà, tu vis ta vie, je vis la mienne, tu te soignes, moi je vois de mon côté. J'ai quand même fait de la thérapie derrière ça quand même. Et au bout de 3 ans, effectivement, c'est là que j'ai été convoquée par la police, et que là, ça a conforté mon idée de dire « Ok, moi, je veux plus d'elle du tout dans ma vie, en fait. Donc, c'est bon. Plus jamais elle revient. » Et donc, voilà. J'ai plus de contact avec elle, mais je sais qu'elle est là, je sais ce qu'elle fait. Il y a des choses... Elle est toujours, malheureusement, dans mon spectre un petit peu. Alors, elle a plus d'emprise sur moi. Hein. Enfin, c'est important de le dire. Par contre... Vous voyez, il y a des choses qui sont un peu énervantes, comme par exemple mon conjoint, il fait de la compétition automobile. Et ben c'est marrant parce que son mari, il fait de la ils sont concurrents sur la piste. Voilà. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc quand on va sur les circuits, elle sait qu'on y va à chaque fois, et ben elle vient pas, quoi. Voilà. Bon, des fois, je vois son mari là au loin. Il sait pas je pense qu'il est pas du tout au courant de ce qui s'est passé entre elle et moi, parce qu'il a l'air trop gentil pour être. Non mais c'est vrai, il a l'air tellement innocent et gentil. Et... Voilà.
C'est quoi une journée type dans la peau d'une
FSB? Ah, ça c'est intéressant, voilà. Ça c'est plus sympa déjà à raconter. La journée type, ça dépend du jour. Parce qu'un mardi, bon, c'est pas très intéressant le mardi. Par contre, le week-end, c'est plus sympa. Le week-end, c'est plus sympa. Des week-ends de show. Alors, une journée type, ça va être beaucoup de... pour ma part... énormément de réflexion toute la journée et je pense sans cesse à « Oh, faut que je finisse ce costume. Oh, qu'est-ce que je vais prendre comme musique pour ce numéro ?» C'est beaucoup de création, en fait, la journée où j'ai pas de spectacle. C'est de la création. Beaucoup en pensée. Et puis, bah voilà, faut trouver le courage de se mettre derrière la machine à coudre, le courage de mettre le legging pour aller répéter. Ça, c'est une journée un peu type. Après, les journées où il y a effectivement du spectacle, bah déjà, faut y aller. Alors, si c'est à Reims, ça va. Ça va, c'est pas trop de. Je peux faire la grasse mat. Si c'est pas à Reims, bon, bah, j'ai des trains, des avions, des trucs à prendre pour me rendre au lieu. Et donc, il y a toujours une répétition, un filage l'après-midi, un filage technique pour les lumières, pour voilà, la scène, etc. Et après, c'est le show. Et après, c'est la fête. Voilà.
Tu es indépendante ? C'est pas comme une troupe.
Alors, j'ai une troupe. Donc, elle est là. Je la dénonce. Eva Delis, qui est mon binôme, en fait, on a créé ensemble une troupe. On donne des cours le jeudi au Ludoval, par exemple. On a créé des scènes, enfin des shows et un festival ensemble. Et de chacune de notre côté, alors ça c'est ensemble, mais c'est vrai que chacune de notre côté, on va aussi jouer en solo un peu ailleurs. C'est rigolo, la semaine dernière, le samedi elle était à Paris, moi j'étais à Lyon, on s'est fait une visio en backstage. C'était très rigolo. Et c'est un petit milieu, on se connaît tous hein, finalement, donc on se retrouve toujours avec des copains, des copines. Mais voilà, on est indépendante et en même temps on est un duo. Et on n'a pas de numéro de duo. Si, maintenant on en a un depuis pas longtemps, c'est vrai. Bon, on l'a joué qu'une fois, il faut qu'on le travaille encore un petit peu.
Alors, votre conjoint, il a été témoin de votre transformation.
Ouais. Ça a été un des premiers à me pousser en fait à le faire. Et lui, il a vu la transformation. Il m'a connue avec ma mère, avec cette espèce de relation fusionnelle. Moi, j'appelle ça une relation fusionnelle. Il s'est avéré que non, c'était une emprise. Il m'a connue à ce moment-là. Il m'a connue au moment où je commençais vraiment à m'élever un petit peu. Et il m'a connue commençant le burlesque en disant, bon, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai pas mon mot à dire, c'est pas mon truc, c'est son truc. Et maintenant, voilà, il est là, il me suit toujours, hein, il m'aide. Quand on a besoin de bras, il est là. Quand, Puis il est content quand je l'emmène en week-end à Rome ou à je sais pas où là. Faire... Hein, on va faire du burlesque et hop, pendant qu'on va faire du burlesque, il va manger des pizzas, il est content. Et après, il vient au spectacle.
Je crois qu'on avait une question au fond avant vous.
Non, c'est non.
Ah, pardon.
C'était Emmanuel, mais.
C'est ma question.
Ah, ben voilà. Non, non, c'est mon premier fan d'ailleurs, pour la petite anecdote. Mon nom de scène, il n'est pas anodin, c'est pas choisi un petit peu au hasard. Bon, Doty, c'était plus pour le côté Dolly Parton, mais un peu plus rêche. C'est pour ça qu'il y a du T au lieu du L. Et le McLean, il y a deux raisons pour le McLean. Déjà parce que c'est, pour moi, ça représente un anti-héros. C'est un héros d'un film d'action des années 90. Je sais pas si vous connaissez les films Die Hard, là, voilà, les retours. Bruce Willis, voilà. Et c'est un personnage qui est un peu. C'est quelqu'un d'ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Et finalement, il s'en sort toujours, hein, même s'il a le t-shirt immaculé de sang et qu'il a peu de chaussures. Bon. Il arrive toujours à s'en sortir et donc à gagner face aux méchants. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce que mon conjoint, c'est son sosie. Voilà. Il ressemble, ouais. Il ressemble à Bruce Willis. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vraiment son sosie, il lui ressemble énormément. Ouais. Le Bruce Willis des années 90, quoi.
Non, il vieillit pas.
Il y a juste le physique qui est pas. La tête, ça va. Le physique, c'est le Bruce Willis de maintenant.
D'ailleurs, on l'appelle Bruce.
On l'appelle Bruce, c'est son surnom, hein, on l'appelle Bruce, ouais. Sur mon téléphone, c'est pas écrit chérie, ou non, c'est écrit Bruce. Quand il m'appelle, c'est Bruce. C'est son surnom depuis même avant que je commence le burlesque. Donc, c'était comme il m'a beaucoup poussé à me lancer. Ça va être aussi un petit clin d'œil, quoi.
Je crois que vous aviez une question.
Ouais, et puis, alors, eh bien, merci.
Merci.
Aussi, bravo, parce que je pense que c'est pas évident aussi de confier un parcours de vie.
Non, il est un peu stressé.
Je trouve ça hyper courageux. Ah, et en fait, moi, je voulais savoir si le personnage de McLean, en fait, tu t'écris, j'imagine, un personnage avec un univers. Et c'est quoi ce personnage?
Alors.
Il faut le voir pour le croire.
Pour le voir. En fait, dans le burlesque, il y a énormément. Chaque artiste a son propre univers, et on va très bien faire du burlesque classique, du burlesque drôle, comique, etc. Moi, depuis le temps que je fais ça, donc je suis dans ma, quand même, ça fait 13 ans que je fais ça, oui, à peu près. J'ai créé un personnage plutôt comique. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, c'est un personnage ordinaire qui se retrouve dans des situations un peu extraordinaires. Par exemple, j'ai un numéro d'autostoppeuse qui est mon best-seller, où je suis une autostoppeuse qui est perdue au milieu de nulle part et qui doit trouver des stratagèmes pour que les bagnoles s'arrêtent. Voilà. Par exemple, il y a quelque chose que moi, j'ai pas vraiment inventé, mais c'est quelque chose que j'ai un peu créé, c'est que, en fait, mon personnage de Doty McLean, c'est... Alors, est-ce que vous savez tous qui est Dita Van Teese, par exemple? Bon, vous voyez Annie Cordy? Bon, vous mettez les deux, là, dans le shaker, on mélange et pouf, c'est moi. Voilà, c'est Doty McLean. Moi, j'utilise beaucoup la comédie et j'aime bien raconter des histoires complètement loufoques, complètement... c'est du gag, c'est du potage. Moi, j'ai tendance à dire que je suis plus Tagada Poète-Poète, voilà. C'est un peu le clown qui fait du burlesque et qui, malgré tout, reste glamour. Donc, j'ai mixé le glamour du burlesque, vous voyez, très beau, les beaux costumes, les postures, les déplacements et l'humour. Et j'ai inventé le glumour, voilà. Comme ça, ça représente mon burlesque. Mais effectivement, il faut le voir pour le croire, parce que c'est... Enfin, pour le croire.
Si, prends, c'est bien.
Arrêtez. Faut le voir, ouais. Faut voir du burlesque au moins une fois dans sa vie, de toute façon, quel qu'il soit, faut le voir.
Alors, tu as parlé beaucoup de ton histoire,
as
parlé de tes enfants.
Oui.
Et la lecture de tes enfants sur ton histoire, est-ce que tu leur en as parlé? La lecture de tes enfants sur... Burlesque.
Alors, mon histoire, alors ils savent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils savent, bon, j'ai pas dit les détails, évidemment, il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Ma fille n'a aucun contact avec ma mère depuis, parce que voilà, quand j'ai coupé les ponts, elle avait 2 ans, vous voyez. Donc elle a pas, pour elle, c'est une sorcière. Donc même encore maintenant à 16 ans, elle dit c'est une sorcière. Oui, bon, si tu veux, elle t'a fait du mal, etc. Mais elle sait ce que j'ai vécu avec elle. J'ai quand même vu des psys, j'ai quand même eu un parcours un peu difficile aussi, donc ça m'a aidée et j'ai pas voulu faire comme elles, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu leur dire la vérité. Alors, je leur dis pas tout non plus, mais pour moi c'est important parce que moi j'ai toujours vécu dans un mensonge finalement. Et quand le poteau rose a été découvert de cette escroquerie géante, en fait, moi, j'ai remis en question les 30 premières années de ma vie et je me suis rendu compte que là, beaucoup d'éléments n'étaient jamais arrivés, en fait. C'était inventé par elle. Et je ne voulais pas qu'ils vivent ça et qu'ils se disent plus tard, « Oh, ben voilà, elle m'a menti là, elle a et là. » Donc, j'essaye de ne pas les mentir. Sauf quand je leur dis qu'il n'y a plus de Wi-Fi, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas vraiment un mensonge, hein. C'est, voilà. D'accord. Et mon fils, lui, c'est différent parce que lui, il l'a connu. Ça a été son... C'est encore, elle a d'autres petits-enfants. Bah non, elle en a que deux, elle a que le mien. Qu'est-ce que je dis? Ah si, non, elle a des... Non, mon frère a eu des enfants aussi. Oui, mais mon frère, elle l'a abandonné quand il avait 5 ans. Donc, bon, voilà. Pour lui, c'est même étonnant que moi, je m'en suis rendu compte à 30 ans. Quand je lui ai dit que j'avais coupé les ponts avec elle, à 30 ans, il m'a dit, il était temps. Bon, enfin, voilà. Mais c'est son chouchou, ça a toujours été son premier petit-fils, ça a été son... Voilà, elle a toujours adoré, elle a toujours aimé, elle a toujours idolâtré, etc. Il sait ce qu'elle m'a fait, il sait, machin. Son père, avec qui on est très très proches, on est très amis tous, on s'est vraiment formé une famille ensemble. Lui a raconté aussi, enfin voilà. Mais je sais qu'il a quand même des contacts avec elle. Mais je vais pas lui interdire après. Il sait juste comment elle est et juste qu'il se méfie, voilà. Et pour le burlesque, alors mon fils, il s'en fout complètement. Alors lui, il s'en fiche, il veut pas savoir. Fais vite ta vie, maman, c'est bon, c'est bien, je m'en fiche. Moi, je fais mes trucs. Bon, d'accord, très bien. Et par contre, ma fille, c'est différent. Elle, elle est à fond, hein, voilà, elle est à fond. Elle adore. Je l'emmène. Quand je joue à l'étranger, j'essaye de l'emmener. Donc, je l'ai emmenée à Berlin, je l'ai emmenée à Rome. Là, on part à Barcelone, on emmène nos filles, du coup. Ça... Dès que je peux, en fait, l'emmener, je l'emmène, parce que bah, je trouve ça cool déjà de voyager, quoi, de voir des choses, etc. Et elle, son truc, à elle, c'est le drag king. Elle rêve de faire du drag king, elle a commencé. Alors, le drag king, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent masculin du drag queen. Donc, les drag queens, c'est des hommes qui se transforment en femmes exubérantes, créatures, etc. Et le drag king, c'est l'inverse. Et elle, c'est plus ça qu'elle a envie de faire. Il n'y a pas forcément des feuillages ou quoi que ce soit. C'est du spectacle, hein, c'est de l'entertainment. Et son truc, c'est ça, c'est drag king. Donc, et le maquillage, les club kids, voilà, elle aime bien tout cet univers drag, en fait. Donc, elle est très contente quand elle vient au spectacle, quand elle vient voir... Là, on était il n'y a pas longtemps à Reims voir les reines de Drag Race. Bon, elles étaient au taquet, évidemment. Ah ouais, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Elle est contente, elle aime bien. Elle aime bien le burlesque, elle aime bien venir au festival. Elle rencontre des gens, on a bien vu encore cette année, de partout. Alors là, elle n'en pouvait plus de parler à un japonais. Elle était « Ah, moi, j'ai rencontré un japonais !» ça. Parce qu'elle aime bien l'univers japonais, geek, kawaii, tout ça. Donc là, elle voyait un vrai japonais qui vient du Japon, qui parle japonais et tout. Enfin, voilà, pas... Donc elle n'en pouvait plus, elle était ravie. Et je trouve ça génial. En fait, elle m'a toujours connue faire ça. Donc, elle m'a toujours connue faire du burlesque. Elle m'a toujours vu faire. Je me suis jamais cachée. Et puis moi, j'ai pas de pudeur. Et puis nous, le burlesque, on montre pas tout non plus. Enfin, je veux dire, on finit pas nu complètement. Hein. Voilà, on est quand même cachés. On a les petits nippies à pompons. Voilà. Donc, il y a jamais eu de problème avec ça là-dessus. Elle est pas.
Mais c'est ta fille. Alors que ton fils.
Mon fils, non. Alors lui, c'est pas qu'il. En fait, non, ça l'intéresse pas. Mais par contre, ça le gêne pas. Voilà. Là, j'ai rencontré ma belle-fille il n'y a pas longtemps. Voilà. Ma petite belle-fille, ils habitent en Bretagne, hein, donc ils habitent un peu loin. Voilà, elle savait ce que je faisais. Ses parents, ils savent ce que je fais. Enfin, voilà, c'est pas caché. Je veux dire, il n'y a pas de... Parce que pour moi, personnellement, c'est pas honteux ce que je fais. Et c'est moi et ça me ressemble. Et... Ouais. Tu peux. Ouais, bah oui, c'est du boulot. C'est du boulot, il faut se faire connaître, hein, ça vient pas comme ça, hein, ça tombe pas comme ça. Et puis voilà, la création de la troupe des cabarets libres qu'on a fait, du Sacré Burlesque Festival qu'on a fait ensemble, c'est de l'entrepreneuriat aussi, quoi. Quand on fait venir une trentaine d'artistes de partout dans le monde, c'est un boulot à part entière, n'est-ce pas, Madame Delis?
Il n'y a pas eu. pas, il y a 2 ans, il y a eu au manège. Non, c'était 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a eu au manège?
Eh bien, il y a eu...
C'était le cabaret du secret qui était venu...
C'était l'effeuillage burlesque.
Il y avait de l'effeuillage burlesque, ouais. Ah. Ouais, il y avait Lala Morte, il y avait qui était là, qui est une effeuilleuse, qui fait du fakir.
Wow.
Elle se couche sur des brisures d'ampoule, la dame. C'était normal. En feu. On l'a vu de nos yeux, on s'est dit pardon, ok. Moi non, ça va aller, j'aime bien, mais de loin. Oui, au manège, de temps en temps, ils font venir. Donc là, il y a eu le cabaret Le Secret, etc. Et nous, sur Reims, voilà, on fait ça. On a créé le festival. C'est vraiment là pour le coup 100% burlesque.
J'ai une question. Est-ce que tu trouves que il y a des structures qui seraient un peu plus snob que d'autres par rapport à...
Oui, c'est intéressant. T'as raison.
Par rapport à... Parce que pour moi, c'est là, de toute façon. Et est-ce que tu as ce sentiment-là, en fait? Il y en a qui...
D'accord. La dernière question. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend pas du lieu, ça dépend des personnes. Parce que Eva et moi, pour vous dire... On a été toqués à des portes en se disant que tout le monde nous a dit « Non, mais laisse tomber, jamais
ouais. !»
Et nous, on est arrivés en disant « Nous, on veut faire ça. » Ok.
Ah ben.
Voilà. Ça dépend en fait du projet, des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de partager, de créer dans notre ville. Mmh. Et nous, on n'hésite pas à aller dans n'importe quel endroit où on a envie de jouer, où on a envie de faire venir des artistes, parce que on y croit, on est à fond dans notre projet, on sait ce que ça vaut, on sait ce qu'on, nous, on connaît notre valeur artistique, et en plus on est entrepreneuse aussi, donc c'est pas forcément les lieux, c'est les personnes qui vont te vendre le projet, en fait. C'est bien répondu, ça, non? Hein? C'est pas si mal. C'était une
partie sur le burlesque et les projets.
Ah ben voilà, le burlesque, les projets, tout ça. Donc...
Ah bon, attendez. Les mimes sont nuls, les filles. Je vous explique. J'en ai une qui me fait ça.
Une, et après c'est fini.
Elle a cartonné sur la dernière question.
Avoir que je recartonne.
Reprends, merde.
Mais je cartonne tout le temps, voyons.
Bon, est-ce que quelqu'un. Là, personne ne va avoir de questions, ma sœur.
Il y a une dernière question.
C'est très simple. Du coup, vous avez parlé de cours le jeudi.
Oui. Ah, ça c'est une question intéressante. En fait, tous les jeudis, on fait ça au Ludoval. On a la salle de danse du Ludoval et on donne des cours de burlesque. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre, Eva ou moi, hein, ou les deux, parfois en même temps, ça dépend. On va vous apprendre tous les tips du burlesque, comment on fait pour enlever des gants, comment on le fait pour enlever des bas, comment on le fait pour enlever un corset, comment on le fait pour faire tourner les pompons. Voilà.
Ça, c'est une
bonne
question.
Donc, en fait, tout au long de l'année, en fait, les cours vont être axés sur la pratique de l'effeuillage avec des petites chorégraphies toutes simples. Faut savoir que le burlesque, c'est accessible à toutes et à tous. Par exemple, moi, je suis pas du tout danseuse. Hein. Je suis incapable d'aligner 2 pas. C'est pas un problème. Tous les physiques sont acceptés, tous les âges. Enfin voilà, c'est un art où il n'y a pas de limite. Et donc nous, le jeudi, on fait ça. On apprend à faire du burlesque, il y a des thématiques tous les mois. Alors on va faire la thématique sur comment enlever les gants, comment enlever les bas. Et à la fin de l'année, vous avez toute une énorme boîte à outils où vous piochez dedans et vous savez faire des choses. Et on fait tout ça sur des petites chorés, des musiques sympas, c'est fun, on aime bien s'amuser. C'est assez rigolo, on a une belle salle de danse en plus, c'est chouette. C'est le jeudi au Ludoval. Ah, c'est la fin de l'année, mais à partir de...
Il reste deux cours.
Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est que c'est pas des cours où vous n'êtes pas engagé sur l'année, vous voyez. Vous pouvez venir aux cours qui vous intéressent. Donc, et si vous ratez une session, c'est pas grave en fait. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est de proposer des cours quand vous avez envie. Si un jour vous vous sentez pas, vous dites oh j'ai pas envie d'y aller, bon on vient pas. Après c'est quand même plus sympa de venir.
Il y a un cours demain.
Et alors là on est sur les pompons en ce moment. Alors attention, on est sur les nippies, donc ça s'appelle les nippies. Comment ça tient? Comment on fait pour les faire tourner les pompons? Voilà.
Je m'imagine en train de sauter comme un, je sais pas, la main.
Ah, il y a des techniques, il y a de la technique. Donc voilà, on apprend vraiment les techniques de l'effeuillage burlesque et tout. Et je vous encourage toutes à aller voir au moins une fois un spectacle d'effeuillage burlesque. C'est très de voir en fait ce que c'est, de se rendre compte de ce que c'est. Donc venez au Grab Bar le 16 juin. Bon, et en plus, c'est gratuit. Merci.